Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène en Thaïlande pour parler de l'accès aux soins des migrants. Il serait près de 4 millions aujourd'hui, venant principalement du Cambodge et de Birmanie, à la recherche d'un emploi et de meilleures conditions de vie. Si la plupart d'entre eux sont arrivés légalement, d'autres, entre 1 million et 1 million et demi, seraient des migrants illégaux, privés de droits. La ville de Mae Sot, à l'ouest du pays, est frontalière de la Birmanie. La zone est directement concernée par l'immigration illégale. Et à cette réalité difficile s'ajoute le va-et-vient des travailleurs journaliers étrangers. Des milliers de Birmans qui traversent tous les jours la frontière pour gagner leur vie, commercer, se soigner, côtés thaïlandais. Pour ces représentants de l'ethnie Karen, c'est une nécessité. Ils sortent de plus de 60 ans de conflit avec l'État birman, ce qui a fait de leur région un véritable désert médical. Alors, qu'est-ce qui est entrepris pour permettre à ces travailleurs journaliers et aux migrants illégaux d'avoir accès aux soins? Comment réagissent les autorités thaïlandaises? Et surtout, qu'est-ce que cela traduit des carences côté birman et de l'accès aux soins dans cette région frontalière? L'accès aux soins des migrants illégaux birmans en Thaïlande, c'est un reportage signé Igor Strauss. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Dans quel secteur travaillent ces migrants, qu'ils soient légaux ou illégaux, ainsi que les travailleurs journaliers?
Ils font tous les dirty jobs, comme on dit en Thaïlande, des emplois peu considérés, mais essentiels à l'économie du pays. Alors ils travaillent dans les plantations, les bateaux de pêche et les usines de transformation, ou alors dans le bâtiment, ils fabriquent les routes et les immeubles. Ils sont corvéables à merci, souvent payés en dessous du salaire minimum légal et interchangeable.
Et pourtant, hein, malgré ces conditions précaires, parfois même pénibles, ils souhaitent bien rester en Thaïlande.
Oui, car en face, en Birmanie, la situation est catastrophique à tous les niveau, manque de travail, d'accès à l'éducation et aux soins. Et malgré le durcissement de la politique migratoire avec l'arrivée au pouvoir des militaires en Thaïlande en 2014, eh bien le flux de migrants illégaux ne tarit pas.
Et alors au niveau de l'accès aux soins, Igor, qu'est-ce que vous avez pu observer? Comment est-ce que cela se passe pour ces migrants?
Bien, les migrants légaux ont droit à une assurance maladie qui couvre une partie importante de leurs dépenses de santé. En revanche, pour les migrants illégaux et les travailleurs journaliers, il n'y a presque rien. Les nombreuses ONG internationales ont quitté la Thaïlande, qui n'est pas un pays prioritaire pour elles, car trop développé. Seules des petites ONG, des particuliers, tentent d'aider les migrants illégaux.
Igor Strauss, vous nous emmenez donc à Mae Sot, à l'ouest de la Thaïlande, et c'est là que commence votre reportage.
Je m'appelle Yunay Singh et je travaille pour le projet MFound, le fonds pour migrants, ici à Mae Sot dans la province du Tak en Thaïlande. Là, nous sommes à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Côté Thaï, la ville s'appelle Mae Sot et côté birman, Miawad. Et ici, c'est un lieu de passage entre les deux pays.
Juste pour décrire, là, effectivement, là, on est au bord de la rivière à 30, 40 mètres de là, on est en Birmanie. Alors il y a là un pont qui fait office de frontière, mais il y a des petites embarcations qui traversent la rivière continuellement, sans autorisation, sans papier. C'est en fait, la vie se fait des deux côtés. Il y a quand même quelques militaires qui surveillent, mais qui sont là juste pour surveiller plus les trafics, m'a-t-on dit, trafic de drogue notamment. Il y a beaucoup de travailleurs journaliers qui vivent en Birmanie et qui viennent travailler en Thaïlande, c'est fréquent?
Oui, oui, il y a beaucoup de travailleurs journaliers qui vivent en Birmanie et viennent travailler en Thaïlande. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des acheteurs journaliers qui viennent acheter toutes sortes de choses en Thaïlande, des biens, de la nourriture. Donc oui, les gens traversent tout le temps la frontière.
Et si on devait comparer justement des deux côtés de la rivière en termes d'accès aux soins, comment ça se passe du côté birman? Et comment ça se passe du côté thaïlandais pour vraiment comprendre la situation?
En termes d'accès aux soins, la situation est très différente des deux côtés de la rivière. Surtout au niveau des infrastructures, du nombre de médecins et de personnel qui est très limité en Birmanie. Et par rapport aux infrastructures qu'il y a en Thaïlande, la Birmanie doit vraiment s'améliorer.
Donc vous êtes un médecin birman. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la Birmanie? Pourquoi vous êtes ici en Thaïlande?
Oui, je suis birman. J'ai étudié et je suis devenu médecin en Birmanie et j'ai quitté le pays lors du soulèvement populaire de 1988. Vous savez, en 1988, quand le peuple s'est révolté, de nombreux diplômés, des médecins, des professeurs, des avocats ont quitté le pays parce qu'à cette époque, on s'est révolté pour avoir la démocratie. Mais c'est la junte militaire qui a pris le pouvoir. Donc de nombreuses personnes ont quitté la Birmanie. Et moi aussi, j'ai quitté le pays. Maintenant, je vis en Thaïlande et je travaille avec les migrants birmans et les personnes déplacées. Et notre objectif est très simple. Nous voulons que ces gens aient accès à des soins de qualité en Thaïlande comme en Birmanie, quel que soit l'endroit où ils sont.
Thank you.
Oh, you're welcome.
Je vous en prie.
Et là, pendant qu'on parle, donc on voit effectivement une pirogue à moteur qui se remplit et les gens vont traverser tout simplement.
So she came from the for shopping.
Cette dame vient faire ses courses.
Here, you want to buy some foods that the product from Thailand and also.
Elle veut acheter de la nourriture ici et ses enfants vivent en Thaïlande. Ils travaillent ici.
Students are working here.
Et c'est mieux de travailler ici qu'en Birmanie ou pas?
So yeah, this is the better here.
Oui, c'est beaucoup mieux. Ils travaillent dans une ferme.
Et quand vous êtes malade, madame, ou quand vos enfants sont malades, où est-ce qu'ils se soignent? En Thaïlande ou en Birmanie?
Moi, je vais en Thaïlande, à la clinique des étudiants.
Et pourquoi vous allez en Thaïlande et pas en Birmanie?
Parce qu'en Birmanie, il faut payer et moi, je n'ai pas d'argent.
Mais quand vous venez ici, c'est légalement ou illégalement? Vous avez des papiers ou non?
Non, je n'ai pas besoin de papiers.
Et pour vous soigner, vous avez besoin de papiers ou pas?
Non, on n'a pas besoin de montrer ses papiers à la clinique.
Thank you. Où est-ce qu'on est maintenant?
Now we are in the Dr. Cynthia clinic.
Maintenant, on est dans la clinique du Dr. Cynthia qui a fondé cette clinique. Donc, les gens l'appellent la clinique du Dr. Cynthia. Mais comme on se trouve dans le quartier de Mae Thao, dans la ville de Mae Sot, certains l'appellent aussi la clinique Mae Thao.
Mae Thao Clinics.
Je suis le Dr. Cynthia, la directrice de cette clinique que j'ai également fondée.
Alors justement, comment vous avez créé cette clinique? Est-ce que ça répondait à des besoins particuliers? Et quelles étaient les principales difficultés au début?
Eh bien, je suis arrivée en Thaïlande en 1988, quand le gouvernement birman avait réprimé le mouvement pro-démocratique. On a vu tous les besoins qu'il y avait à la frontière pour améliorer l'accès aux soins, l'éducation, la protection des enfants, des personnes déplacées. Donc on a créé cette clinique en 1989 et en 1995, l'hôpital gouvernemental thaïlandais nous a aidés pour la vaccination, le planning familial, les femmes enceintes, pour qu'on prenne soin de ces populations. Et c'est depuis ce temps-là que nous sommes devenus un vrai centre de soins qui dispense des soins pédiatriques, des soins maternels. 2000 femmes accouchent ici tous les ans. On fait plus de 5000 tests pour le VIH chaque année. On reçoit plus de 10 000 personnes chaque année en hospitalisation et on fait plus de 100 000 consultations par an dans cette clinique.
Et uniquement pour les migrants birmans ?
Oui, principalement pour les migrants et les personnes qui vivent en Birmanie, mais qui traversent pour venir se soigner en Thaïlande. 50% sont des migrants illégaux qui n'ont pas d'assurance. 83 à 85% de nos patients n'ont aucune assurance, donc ils viennent ici. Et les autres patients sont des gens qui vivent en Birmanie et qui là-bas n'ont pas d'accès aux soins, surtout pour les soins secondaires. On voit beaucoup de cas de malnutrition, de tuberculose, des problèmes liés au VIH, des pneumonies. Beaucoup d'enfants sont emmenés ici pour les soins.
Qu'est-ce que ça traduit de la situation sanitaire en Birmanie ?
Ici, dans la province, la Thaïlande et la Birmanie ont 500 km de frontières communes. Et du côté birman, il y a eu un conflit entre les différentes ethnies et l'armée birmane et les ONG internationales n'ont jamais eu accès à cette région. De nombreuses personnes ont été déplacées de force et il y a eu de nombreuses violations des droits de l'homme. Et les investissements du gouvernement birman pour la santé sont très bas, surtout dans les zones rurales, donc il n'y a pas de structure d'État. C'est pour cela que les ethnies ont dû créer leur propre système de soins, former leurs sages-femmes ou des agents de santé communautaires, mais ils ne peuvent dispenser que des soins de base. Pour les soins secondaires ou les cas graves, ils ne peuvent rien faire, donc ils disent aux gens de venir ici. Jusqu'à présent, les investissements dans la santé sont très bas en Birmanie comparé aux autres pays de l'ASEAN. Moins de 3,6% du budget national est consacré à la santé. Et les gens doivent payer 85% des soins de leur poche. Alors qu'en Thaïlande, les gens ne doivent payer que 14% des soins. Mais pour les Birmans, c'est 85%, donc ils ne peuvent pas payer. Et de nombreux Birmans ont des problèmes de papier d'identité. Beaucoup ont été déplacés et ont perdu leurs documents. D'autres n'ont pas le droit de retourner chez eux les récupérer. Donc pour toutes ces raisons, c'est plus simple pour eux de passer la frontière et de venir ici.
Thank you very much.
Thank you.
Là, nous sommes dans le quartier de Bang Son Kwe à Maesot. 11 familles birmanes vivent dans cette communauté, soit un peu plus de 40 personnes.
Bonjour, monsieur.
Alors,
je vais vous laisser vous présenter, monsieur.
Bonjour, j'ai 56 ans, je suis divorcé. J'habite ici depuis 2007. Mes enfants travaillent à Bangkok et je m'occupe de mes petits-enfants.
Et alors, comment vous êtes arrivé ici en Thaïlande, monsieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes venu ?
En Birmanie, je ne trouvais pas de travail. Je travaillais de temps en temps dans une ferme, mais ça ne suffisait pas, donc je suis venu ici.
Et alors, depuis que vous êtes arrivé ici en Thaïlande, est-ce que votre vie a changé finalement ?
Oui, bien sûr. En Birmanie, quand vous travaillez un jour, votre salaire vous permet juste de vous nourrir une journée. En Thaïlande, quand je travaille un jour dans le bâtiment, je peux vivre trois jours avec mon salaire.
Où est-ce que vous vivez ? Ça, c'est votre maison ici, là ?
Oui.
Et ça va aller bien comme maison ? Ça vous convient ?
Oui, ça peut aller.
Just OK.
OK.
Donc juste pour la décrire, c'est une maison faite de briques et de broc, hein, c'est un peu bidonville, c'est juste du bois, un peu de tôle, un plancher si on peut appeler ça un plancher. Et alors, est-ce que ici vous êtes un travailleur légal ou est-ce que vous êtes considéré comme un migrant illégal ?
Moi je vis ici légalement, j'ai des papiers officiels qui me permettent de rester ici. Tous les 15 jours, je dois demander un nouveau tampon, donc ça va.
Alors là, monsieur sort ses papiers. Effectivement, c'est comme ça ressemble à un passeport, il y a sa photo. Border pass. Et donc ça, c'est bien d'avoir ça ?
Oui, ça me permet de me déplacer sans me faire arrêter, donc c'est bien.
Et concernant l'accès aux soins, est-ce qu'avec ça, vous pouvez avoir accès aux soins gratuitement ou pas ?
Non, ça ne donne pas accès aux soins.
Et alors, comment vous faites quand vous êtes malade et quand vous devez voir un docteur ? Qu'est-ce que vous faites ?
Je vais à la clinique Meitao. C'est gratuit là-bas, donc c'est parfait car je n'ai pas les moyens de payer l'hôpital. Sinon, j'achète des médicaments directement à la pharmacie.
Thank you.
The Burmese state came in attack of raining. This war has harm torn in our land seas. Why can't we get along and just have peace? We love Karenin, we just want our back, please. Karenin's home, at least it was to me. We lived hard, but the harmony in it was easy to breathe. No really see the reason why it got so much greed. Why are you preaching peace? We're gonna need you to leave. The burn is when it turned into feelings. I keep feeling, but words are really hating. Dude started killing, burned down my feeling. Enslaved and murdered men, women, and children. So don't even ask me what's making the evil. They ain't out loud, animals raped, half our people. The way they treated us like we fecal. We want our freedom, we want to be equals. How could you leave yourself? Cause what you did to us, how to this day, I still remember the smell of all the death of Karenin fell. There was driving us all like you driving the car. Looking to survive, you'll see all the scars. The war isn't over, we're leading the charge. Burmese, they came in to take Karenin. This war has harm torn in our land seas. Why can't we get along and just have peace? We love Karenin, we just want her back, please. We kept fighting back, giving them the business until we lost the lights of a couple of my siblings. But my other sibling needed medical attention, and no one giving any. If you ain't giving up, ain't man. But they really needed that treatment and medicine. And when they didn't get it, they seemed to resist it different. It got too hard, we didn't know what to do. So we up and moved to Thailand, we was cutting loose. Yeah, look. We didn't want to do it, but time to rain. Before we were all damn under dirt and sand. I can understand they had their homeland still damn. That wasn't good enough, man. Look, yeah. Let me tell you this. Y'all picks the way your pleasure devours. It wasn't enough, so you had to take hours. Using up it and hate as your powers. Facing you such a disgrace and cowards. We could have all lived in peace and be true brothers. But now what we see is you show your true colors. Burmese, they came in attack of raining. This war has harm torn in our land seas. Why can't we get along and just have peace? We love Karenin, we just want her back, please. Burmese, they came in attack of raining. This war has harm torn in our land seas. Why can't we get along and just have peace? We love Karenin, we just want her back, please. Yeah. Karenin's home, it always will be. No matter where I roam, my heart is always Karenin. I miss my country, really wish this war would stop. I wish they would just leave. Give us back all these life we lost. My mama and dad just worked so much, so thankful for that. I just had your love. When I think about it, it hurts because they sacrificed their lives just to put us up. Yeah, but we escaped to that madness. But God's hand ended up being a king in Thailand. True, we were okay. We had all the basics. They moved to the USA for good education. Still, we wanna go home, believe in that. Have our own country's freedom back. Our children's breaking. I can see the grass. How beautiful Karenin will be free at last. Yeah, I love Karenin, and it's home, and that's true. It will always be my home, even without a house to go back to. The Burmese, they came in attack Karenin. This war has harm torn in our land seas. Why can't we get along and just have peace? We love Karenin, we just want her back, please.
Priorité santé. Reportage.
Donc je suis Michèle Vassanti Delmas, je suis médecin et je suis actuellement responsable du département tuberculose à Choclo Malaria Research Unit, à SMRU comme on dit ici. Et donc je m'occupe de développer le programme tuberculose pour les migrants sur la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. La frontière, c'est une rivière qui peut même se traverser à pied pendant la saison sèche, la saison chaude. Et en face, c'est la Birmanie. Et donc, on est sur une zone où on a ce qu'on appelle des villes jumelées, Mesot, Miawadi, qui sont des twin cities, notamment dans le grand projet économique, qui est le grand corridor économique qui va de la Chine jusqu'à l'Inde pour le transport des marchandises. Donc c'est vraiment une zone particulière en termes d'économie et donc de migration. Comme en face, du côté birman, c'est l'État Karen, donc c'est un État, il vient de célébrer 70 ans de révolution Karen, qui est quand même dans une zone de post-conflit, qui a été totalement abandonné pendant près de 70 ans. Donc les structures de santé sont totalement limitées, pour ne pas dire délabrées, et très très peu de médicaments, de dispositifs de diagnostic, etc. En gros, il y a rien.
Et est-ce que c'est la faiblesse des infrastructures qui explique la forte prévalence à la fois de la tuberculose et du VIH en Birmanie, ou comment l'expliquer, cette prévalence qui est plus élevée qu'ailleurs ?
C'est une énorme question. Il faut repenser dans le temps le fait, par exemple, que la Birmanie, le Myanmar, en fait, n'a déclaré son premier cas de VIH qu'en 2005. Donc, ça laisse quand même des années, depuis le début de l'épidémie, de transmission et de progression de l'épidémie. Pour la tuberculose, il y a des programmes assez puissants et vraiment, pour le coup, j'ai un grand respect et on travaille de façon très étroite avec les programmes antituberculeux de Birmanie où le programme national est structuré à traverser les années de conflit et les années difficiles et les années de dictature en essayant de tenir la route avec le peu de ressources qu'ils avaient. Par contre, le territoire où on est, le territoire Karen, a été abandonné par le gouvernement birman pendant des années. Il était même interdit, voire puni pour les médecins birmans de venir travailler dans ces territoires-là jusqu'en 2015-2016. Donc on retrouve les grands facteurs de la tuberculose, hein. La pauvreté, les habitats en grande promiscuité, donc une grande transmission familiale. Donc c'est un ensemble de facteurs politiques, géopolitiques, socio-économiques et je mets là-dedans aussi l'éducation qui aboutit au résultat sur lequel on est. Donc la SMRU joue un rôle vraiment d'absorption de l'accès aux soins pour contenir et pour contrôler l'évolution de la tuberculose, la transmission dans les populations migrantes. On fait office de sanatorium, pour que ça parle un peu aux gens, c'est-à-dire un lieu de traitement où les gens peuvent rester hospitalisés en début de la maladie, c'est-à-dire pour contrôler les effets secondaires des médicaments, pour contrôler les maladies avancées qui ont besoin de surveillance et de perfusion, d'oxygène, etc. Donc en fait, on a un dispositif qu'on appelle des cliniques, mais qui sont en fait des petits sanatoriums où on accueille des deux côtés de la frontière autour de 90 patients pour permettre à ces personnes de comprendre leur maladie, de prendre leur traitement régulièrement et d'aller mieux. Donc je pense qu'on a effectivement pour cette population-là un dispositif qui répond aux besoins particuliers de cette population-là.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à Mysot, à l'ouest de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie, pour parler de la difficulté de l'accès aux soins des migrants illégaux birmans. Igor Strauss, y a-t-il des projets à plus long terme dans le cadre de la lutte contre la tuberculose ?
Bien, aujourd'hui, oui, mais il faut rappeler que depuis 1948, les combattants de la minorité Karen de Birmanie se battaient pour faire valoir leurs droits contre un État jugé trop centralisateur. Alors, suite aux accords de cessez-le-feu entre le gouvernement birman et l'ethnie Karen en janvier 2012, le Fonds mondial est revenu dans la région, ce qui était évidemment un préalable à toute avancée puisque c'est le principal bailleur de fonds. Alors sur la période 2019-2021, le Fonds mondial a lancé un programme de lutte contre la tuberculose pour les migrants illégaux de 5 pays, la Thaïlande, le Myanmar, donc la Birmanie, le Vietnam, le Laos et le Cambodge.
Alors Igor Strauss, on retrouve la suite de votre reportage.
Bonjour, je suis le professeur Rose McGuady et je travaille pour le SMRU. Là, nous sommes à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, à environ 30 km des villes de Mesot et Miawadi.
En face de nous, c'est la Birmanie.
Oui. This is pregnant women this time.
Et on aperçoit les femmes enceintes et les enfants qui arrivent. Ici, on a une clinique qui offre des soins aux enfants et aux femmes. Donc, les gens traversent la rivière et on leur donnera leur traitement sans aucun problème. On travaille avec l'hôpital de Miawadi en Birmanie. Mais là-bas, il n'y a qu'un médecin obstétricien, juste un seul. Et de l'autre côté, en Thaïlande, sur la même superficie, il y a 3 hôpitaux, avec, dans chacun d'eux, 3 ou 4 médecins qui peuvent faire des césariennes en pleine nuit. Mais en Birmanie, il n'y a qu'une obstétricienne et elle ne peut pas tout faire. C'est impossible. Elle essaie d'obtenir de l'aide de son gouvernement, mais les hôpitaux luttent pour avoir l'appui du gouvernement birman. Donc on parle et on échange avec elle, mais on sait qu'on ne peut pas lui envoyer nos urgences. 85% des cas que nous prenons en charge devraient être pris à l'hôpital. On a besoin d'elle, mais si on lui envoyait nos cas urgents, elle mourrait sous la pression. Et cela mettrait la vie de nos patients en danger. C'est difficile. Elle fait de son mieux, mais elle est seule. C'est insuffisant.
On va visiter la clinique ? Donc on pénètre dans la clinique. En fait, c'est un immense hangar.
Oui, c'est très grand. Ici, on avait des milliers de patients qui étaient traités pour le paludisme chaque mois. Et maintenant, vous voyez qu'il n'y a personne.
Alors là, effectivement, c'est vide. On voit plein de bancs au milieu, des bancs désertés. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais du personnel soignant qui s'active.
Donc ici, on enregistre les gens avec leurs empreintes digitales. Comme ça, on sait qui ils sont s'ils reviennent. On connaît un peu leurs antécédents médicaux. Ici, des femmes enceintes attendent leur tour.
Ici, c'est l'endroit dédié aux femmes enceintes ?
Oui, ici, c'est la section des femmes enceintes. On surveille la nutrition, l'anémie et le paludisme.
Donc là, il y a une dizaine de femmes, mais par jour, vous en recevez combien des femmes enceintes, généralement ?
Ici, on reçoit environ 1500 femmes enceintes par an. Avec le paludisme, on leur demande de venir régulièrement pour les tester et les traiter si besoin. On leur demande de venir tous les 15 jours ou tous les mois, selon l'endroit où elles vivent, pour faire un test de contrôle pour le paludisme.
Est-ce que ici vous pouvez travailler dans de bonnes conditions ? Est-ce que vous avez quand même assez de matériel, un personnel formé ? Comment vous qualifieriez le niveau de soins ici, dans cette clinique ?
Cette clinique est tenue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par du personnel birman. Il y a 2 médecins expatriés qui travaillent ici du lundi au vendredi pendant la journée. Et le reste du temps, ils interviennent au téléphone. Donc on s'appuie sur les agents de santé communautaires. Et on doit faire un gros travail de formation et d'enseignement. Car ici, c'est un no man's land. Ils n'ont ni diplôme thaïlandais, ni diplôme birman. À part certains qui ont suivi des formations en Birmanie. Mais généralement, personne n'a de diplôme d'État reconnu par un gouvernement. Donc, en ce qui concerne les naissances, la mortalité maternelle, les prématurés, nos indicateurs ne sont pas aussi bons que dans les hôpitaux thaïlandais, mais pas aussi mauvais ou presque qu'en Birmanie. La Birmanie va devoir faire des efforts pour offrir des formations aux soins dans les langues locales, parce que toutes les formations sont en birman. Mais dans de nombreuses zones, l'enseignement se fait dans la langue de l'ethnie et pas en birman.
Delivering healthcare
C'est donc un gros défi, sachant qu'il y a 150 ethnies en Birmanie. Et c'est un pays dans lequel il est très difficile d'apporter des soins dans la langue parlée par le patient.
Donc là, on rentre dans une petite salle où il y a des femmes qui dorment.
It's not easy to have a live child in Burma.
Il n'est pas facile de garder les enfants en vie en Birmanie.
Every 10 women, there's at least one child death.
Si on regarde les statistiques, une femme sur 10 a au moins perdu un enfant. C'est catastrophique. Mais c'est mieux qu'il y a 30 ans, où c'était une sur 4. Une femme sur 4 voyait mourir un enfant. Donc comment faites-vous dans un tel contexte pour parler de planning familial, quand vous savez au fond de vous qu'un enfant peut mourir de n'importe quoi, parce que le niveau de soins est si faible? Donc après l'accouchement, elles vont là. Et si l'enfant est malade, il va ici.
Donc là, on continue le petit tour, c'est vraiment circulaire, tous les services s'enchaînent. Donc là, un autre service, c'est des lits très sommaires. Hein. Les femmes dorment sur des planches de bois.
Ici, c'est l'unité spéciale pour les enfants. On surveille les prématurés. 20% des nouveaux-nés ont la jaunisse, ce qui est considérable. Mais avec cette petite unité qui dispense des soins très basiques, on a baissé la mortalité infantile de 50%. Juste avec des antibiotiques, de l'oxygène et de la photothérapie. Des choses très simples. Là, vous ne pouvez pas entrer. Cet enfant souffre de malnutrition sévère et d'une infection urinaire. Les parents habitent un endroit très reculé. L'enfant a un bec de lièvre, donc la maman avait beaucoup de mal à l'allaiter. Elle a donc décidé de le nourrir avec une bouteille. Mais elle ne lui a pas donné de lait. Elle lui a donné de cette poudre qu'on met dans le café, faite de sucre et de graisse, mais sans nutriments pendant 3 mois. L'enfant est proche de son poids de naissance alors qu'il a 7 mois. C'est un désastre. On ne sait pas comment l'enfant va s'en sortir. Il est très malade. On ne sait pas s'il survivra.
Ok, allez. Pailong payaban, nakakuben.
Je vous laisse vous présenter déjà.
Bonjour, mon nom est Nicolas Durier. Je suis le fondateur et le directeur de l'entreprise sociale Dreamlopments. Et on conduit ici le projet de Migrant Found, le M-Found ou le Fonds Migrant, à Mesot, ici dans la province de Tak, le long de la frontière thaï-birmane. L'objectif, c'est de créer une assurance santé à bas coût et à but non lucratif pour les migrants non enregistrés. Il y a à peu près 3 millions de migrants en Thaïlande. Ça fait à peu près 5% de la population. La plupart sont birmans, à peu près 70-80% sont originaires de Birmanie. Les autres sont originaires du Cambodge et du Laos. Et parmi les migrants, donc il y a deux groupes. Il y a les migrants enregistrés, c'est-à-dire ceux qui vivent ici et qui travaillent légalement en Thaïlande, qui ont des permis de travail et des visas. Et eux peuvent accéder à une assurance santé spéciale du gouvernement thaïlandais. Mais demeurent à peu près 1 million de migrants qui sont non documentés, non enregistrés, en d'autres termes illégaux, qui eux n'ont pas accès aux soins de service et qui n'ont aucun système de protection et d'assurance santé. Et donc nous, on a créé une assurance santé spéciale pour ce groupe de gens qui demeurent exclus du système de santé.
Alors à bas coût, concrètement, c'est combien?
C'est 100 bahts par mois et par personne. 100 bahts, ça fait à peu près 2,7 euros. Par mois et par personne, sachant que le salaire journalier, c'est à peu près 180 bahts par personne. Et donc, c'est moins d'un jour de salaire pour une personne pour être couverte par cette assurance santé. Et en fait, on a établi ça sur la base de recherches qu'on a faites auprès des migrants. Donc avant de lancer le projet, on a fait des enquêtes auprès des migrants, des recherches, on a fait des études de faisabilité. Et en fait, on a obtenu de cette population que pour eux, c'était impossible de payer plus qu'une fois par mois et que le montant qu'ils étaient prêts à payer, c'était à peu près ça. Ça, c'est le schéma de base. Après, on a quelques options supplémentaires où certaines personnes doivent payer un peu plus parce qu'ils ont des conditions de santé qui le nécessitent. Mais le schéma de base, c'est ça. C'est 100 bahts par personne et par mois.
Et alors, ceux qui ont besoin de soins supplémentaires, vous pensez à quel type de pathologie particulier ?
Donc, en particulier, on a les personnes qu'on appelle seniors, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans. Ensuite, on a les personnes avec des pathologies chroniques, par exemple diabète, hypertension, VIH, tuberculose,
Et pathologies ensuite, qui sont répandues, qui sont fréquentes,
qui sont assez fréquentes. Ouais. Et puis finalement, les femmes enceintes. Et donc, chez ces trois groupes, on leur demande de prendre une option supplémentaire. Pour les personnes seniors, on leur demande de payer 50 bahts en plus par personne et par mois. Pour les personnes avec une pathologie chronique, on leur demande de payer 200 bahts en plus par personne et par mois. Et pour les femmes enceintes, c'est 100 bahts supplémentaires par personne et par mois pendant la grossesse. Voilà.
Où est-ce qu'on est là ?
Ici, on vient d'arriver dans une des communautés à Meramat. Donc Meramat, c'est le district qui est au nord de Meissot. C'est un district qui est plutôt rural, avec beaucoup de fermes. Et là, en l'occurrence, on est dans un site de construction dans lequel il y a pas mal de travailleurs qui sont inscrits dans le M-Farm. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous avec quelques familles pour discuter du projet. Un peu de cap.
Je m'appelle Tonio, je suis veuve. J'ai 58 ans et 5 enfants, 2 filles et 3 garçons.
Donc là, on est dans votre maison. C'est une maison en bois typique, hein, on pourrait dire. Combien de personnes vivent ici ?
Ici, on vit à 7 personnes, donc ce n'est pas très confortable, car la maison est petite, vous voyez.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivé ici en Thaïlande et comment se passait votre vie avant en Birmanie ?
En Birmanie, je n'avais rien. Pas de maison, pas de terrain, pas de champ. Donc des amis m'ont conseillé de venir ici en Thaïlande. C'était il y a 21 ans. Mais à l'époque, ce n'était pas facile de venir, surtout sans documents légaux. On risquait à tout moment de se faire arrêter, faute de papier, que je n'ai plus. Mais je suis quand même venue. Donc je suis une migrante illégale ici.
Et donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être illégal ici après 21 années d'existence en Thaïlande ?
Ça me rend très triste. Parfois, j'ai envie d'aller au monastère, mais je n'y vais pas car j'ai trop peur d'être arrêté par la police. C'est angoissant d'être illégal. Il y a des gens qui arrivent à obtenir des papiers en mentant sur leur âge. Mais moi, je n'ai pas envie de mentir, donc je ne peux pas avoir de papiers. Du coup, dès qu'il y a la police, je dois me cacher.
Mais si la police vous attrape, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Il vous renvoie en Birmanie. Une fois, alors que je marchais dans la rue, la police m'a arrêté et demandé mes papiers. Comme je n'en avais pas, j'ai passé la nuit au commissariat et le lendemain, ils m'ont ramené à Miawadi, en Birmanie.
Et comment vous avez fait pour revenir alors ?
On était plusieurs dans cette situation. Donc j'ai demandé à certains de me prêter un peu d'argent pour pouvoir revenir. Ils ont accepté et je suis revenue. Mais j'ai peur de sortir maintenant. Je ne sors que pour aller à l'hôpital et voir les gens du M-Fund.
Grosse question qui se pose à nous, c'est de se dire, bon, est-ce que le M-Fund, c'est la seule et unique solution ? Pourquoi est-ce qu'on fait payer ces gens un système d'assurance santé. Pourquoi est-ce que eux n'auraient pas le droit de bénéficier de l'accès gratuit aux soins comme les citoyens thaï? Et en définitive, ce qu'on sait, c'est qu'en parlant avec les politiques, les gens en charge de ces lois, c'est qu'en fait, l'opinion thaï, une partie de l'opinion thaï, n'est pas en faveur du tout qu'on utilise les taxes des citoyens thaï pour payer l'accès aux soins des migrants. Alors qu'en définitive, ces migrants eux-mêmes participent à l'économie, d'abord encore une fois, construisent l'économie, participent à construire l'économie, et eux-mêmes, en fait, dans leurs achats quotidiens, payent des TVA et en définitive amènent de l'argent à l'intérieur du pays. Mais ceci dit, malgré ça, une partie de l'opinion thaï qui n'est pas informée ou ne comprend pas ou ne veut pas comprendre et n'est pas en faveur d'utiliser les taxes des citoyens thaïs pour donner l'accès aux soins aux migrants birmans.
Et est-ce que vous avez eu des difficultés à instaurer ce système d'assurance pour migrants en raison justement d'un certain racisme ambiant, on pourrait le dire?
Non, parce qu'en fait, nous, notre partenaire principal au niveau du gouvernement, ça a été le ministère de la Santé. Et pendant l'enquête de faisabilité, qui a duré un an, on a discuté avec beaucoup de personnes au niveau du ministère de la Santé, différents bureaux, et on leur a demandé justement, bon, on a fait des recherches sur ce concept, il y a un intérêt majeur, on voudrait le faire, qu'est-ce que le gouvernement thaïlandais voit? Comment est-ce qu'il considère cette initiative? Est-ce que c'est trop sensible? On ne peut pas mettre un système comme ça d'assurance pour des migrants illégaux. C'est politiquement beaucoup trop sensible. Ça va à l'encontre des lois de l'immigration, de gestion de l'immigration. Et en fait, on a eu un recueil très positif de la part du ministère de la Santé. On n'a pas parlé avec le ministère de l'Intérieur, la police, l'armée et compagnie. Nous, notre partenaire, c'est le ministère de la Santé. Et en fait, le ministère de la Santé sait très bien que ces gens sont sur les territoires thaïlandais, qu'ils ont des besoins de santé, qui pose peut-être même un risque, en définitive, de santé pour la population thaï. Pathologies infectieuses, tuberculose, maladies diarrhéiques, maladies respiratoires, maladies parasitaires, VIH, etc., etc. Les autorités de santé thaïlandaises savent très bien que ce besoin n'est pas couvert par les autorités thaï et que, en fait, du coup, c'était une opportunité pour eux que de supporter le Blantman, c'est le M-Fund, voilà, pour atteindre cette population. Donc ça s'est très bien passé. On a eu un support au niveau du ministère de la Santé à Bangkok, qui ensuite a permis de négocier nos accords avec les hôpitaux locaux. Et en fait, ça se passe plutôt très bien.
Merci.
Igor Strauss, concrètement, comment est-ce que ça se passe pour les migrants qui bénéficient de cette assurance?
Eh bien, on leur fournit une carte magnétique avec toutes les informations les concernant qu'ils présentent dans les trois hôpitaux publics thaï et les deux cliniques d'ONG partenaires du projet. Et à la fin du mois, le M-Fonds, donc le Fonds pour migrants, reçoit les factures de ces structures et les paie.
Combien de migrants ont adhéré à ce fonds et donc à cette assurance maladie?
Ben pour l'instant, il y a 8500 personnes qui en bénéficient uniquement dans la province du Tak. Mais pour que ce système soit vraiment pérenne, il en faudrait 100 000. Le M-Fonds va donc être lancé dans d'autres provinces de Thaïlande cette année. Et puis l'idée est également de réduire le nombre de perdus de vue, qui représente quand même 31,5% des adhérents.
Et est-ce qu'on peut l'expliquer?
Bien, les migrants bougent énormément. Certains partent travailler à Bangkok ou retournent en Birmanie. Certains n'ont plus les moyens de payer, tout simplement, et d'autres qui sont plutôt en bonne santé estiment bien que cette assurance n'est pas utile, finalement. Il y a tout un tas de raisons.
On retrouve votre reportage, Igor, et pour conclure, ce coup de projecteur sur un programme d'élimination du paludisme lancé du côté birman.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis Gilles Delmas, je suis épidémiologiste au départ et je dirige ici le programme d'élimination de la malaria dans l'état Karen à la frontière de la Birmanie. On a démarré il y a 5 ans maintenant ce projet dans 4 townships de l'état Karen, ce qui représente une population un petit peu en dessous de 400 000 personnes. En gros, notre hypothèse était de dire que si on arrivait à éliminer le parasite circulant chez une majorité de personnes qui transportent le parasite, on arrivera à éliminer la maladie. On parle de Plasmodium falciparum ici, donc de la malaria responsable de neuropaludisme, donc de paludisme dont on peut décéder. Le problème de cette maladie, c'est qu'un certain nombre des personnes qui sont malades, on va les traiter, et une fois qu'ils ont été traités, ils ne sont plus contagieux, ils ne vont plus retransmettre à un moustique le parasite. Alors ça, c'est la partie facile, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a une partie immergée de l'iceberg qui est très importante. On considère qu'il y a à peu près 70 à 80% des gens qui hébergent le parasite, qui l'hébergent de façon silencieuse. Ils vont pas déclencher une maladie, mais par contre, ils ont le parasite en eux. S'ils sont piqués par un moustique, le moustique va pomper ce parasite et va être capable d'infester d'autres personnes. Donc le cycle existe toujours. Donc l'enjeu est de repérer là où sont les concentrations de porteurs du parasite et de traiter l'ensemble de la population dans ces endroits-là. On a fait des coups de sonde, en fait. On a sélectionné un ensemble de villages, à peu près on a sélectionné 300, dans lesquels on a fait des prélèvements sanguins à l'ensemble volontaire, évidemment, de la population, et dans lesquels, en biologie moléculaire, donc avec des techniques de laboratoire un petit peu fines, on a été rechercher si ces gens-là portaient le parasite ou pas. Et dans un certain nombre d'entre eux, qu'on a appelé des hotspots, des points chauds un petit peu, on a des populations dans lesquelles 30, 40, 50% de la population était porteuse du parasite. Et dans ces villages-là, on a fait ce qu'on appelle des traitements de masse, c'est-à-dire qu'on a traité l'ensemble de la population. Mais il faut savoir que l'administration de masse, elle ne fonctionne que comme un booster un petit peu, que comme un amplificateur d'un réseau qui doit être mis en place, alors soit préalablement, soit au moment des traitements de masse, et qui propose un diagnostic et un traitement précoce de l'ensemble des gens qui sont éventuellement malades. Et donc on a monté ces postes de malaria dans ces 1200 et quelques villages, dans lesquels le malaria post worker,
un agent dédié au paludisme.
Pour l'instant, en tous les cas, en gros, les gens savent que s'ils ont de la fièvre, il faut qu'ils consultent l'un de ces post-malaria dans les 24 heures qui suivent le début de leur fièvre. S'ils consultent dans les 24 heures, et on rend possible la consultation en mettant le malaria post aussi près que possible d'eux, le malaria post, c'est le voisin. Il est très accessible, il n'est pas à 3 heures de route ou à 2 heures de marche, il est à côté. Et il a constamment du matériel pour tester, pour traiter. Et à partir de là, on vide progressivement le réservoir. Sur ce projet qu'on a monté depuis 4 ans, sur 4 townships, on a maintenant... Trois de ces quatre townships montrent une transmission du palu à falciparum qui est en dessous du détectable. La définition de l'OMS pour parler d'état d'élimination demande de vérifier une incidence, donc un nombre de cas pour 1000 personnes et par an, qui est inférieur à 1. Et sur deux des trois, on est à 0. Et sur le troisième de ces trois-là, on est à moins de 1. C'est-à-dire qu'on a eu un ou deux cas en tout l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, nous, notre projet, il est plus là pour faire un vide sanitaire, un petit peu un coupe-feu, pour bloquer l'avancée des résistances aux dérivés de l'artémisinine. On s'est rendu compte que il y a un foyer de résistance qui a démarré déjà depuis quelques années au niveau du Cambodge et qui a tendance à s'élargir. Et il faut surtout faire tout faire pour que l'avancée de ces résistances n'aille pas plus vers l'ouest. L'entrée en Birmanie, ça voudrait dire derrière c'est le Bangladesh, l'Inde et après c'est l'Afrique en fait. Donc l'objectif, il est vraiment ici de faire un pare-feu pour casser un petit peu la dynamique de ces résistances. Donc il faut qu'on termine cette élimination dans les temps avant que le parasite ne devienne résistant parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le tuyau derrière. On n'a pas d'eau.
Il n'y a rien du tout même.
Le jour où les combinaisons à base d'artémisinine ne marcheront plus, on est tout nu.
L'accès aux soins des migrants illégaux birmans en Thaïlande, c'était un reportage d'Igor Strauss, réalisé par Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'autisme, journée mondiale de l'autisme. Si vous avez des témoignages à apporter, des questions à poser, le numéro de l'émission, le 33 84 22 75 75, ou bien sûr, la page de Priorité Santé. Vous pouvez y laisser vos messages. Bonne journée à tous et à demain.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.